Africa.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue, ravi, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Mars Africa. Quel plaisir de vous retrouver, on est ensemble pour 1h30 de direct, de 9h à 10h30. Et l'idée évidemment c'est de faire le tour d'horizon, hein. On ira un petit peu partout en Afrique pour faire le bilan de cette Coupe d'Afrique des Nations. On parlera aussi de la petite finale, hein, qui aura lieu aujourd'hui. Et puis la grande finale demain, Côte d'Ivoire-Nigeria. On aura le plaisir d'avoir avec nous ce matin Elisabeth Gouli en direct maintenant à la Côte d'Ivoire. Il y aura Franck Simon qui viendra nous faire le bilan de sa CAN, Michel Tobo qui nous parlera évidemment de Sabre, l'entraîneur de la RDC, la CAN des surprises. Lui, il a répondu clairement que c'était la CAN du travail et il attend cette petite finale. Il espère que ce sera la CAN de la fierté. On ira en Tunisie aussi pour parler de l'avenir, hein, de l'équipe qui sera le prochain coach de l'équipe tunisienne de football. La Mauritanie, bien entendu, qui renouvelle clairement, on posera en tout cas la question à Alassane Camara, le contrat de son coach. Et puis le Sénégal, la Guinée équatoriale, le Sili national au programme. Et puis on terminera par le Cameroun. Mais pour commencer, tout en douceur, avec de la bonne musique africaine, justement avec Toto Africa. Africa Toto sur Radio Mars, il est 9h06, vous êtes mes amis au cœur de Mars Africa en ce samedi 10 février 2024, on va faire le bilan évidemment de cette belle Coupe d'Afrique des Nations. Et pour commencer, tiens, j'ai le plaisir d'avoir avec nous ce matin Franck Simon, notre ami, notre confrère, un des plus grands spécialistes du football africain. Bonjour Franck.
Salut Hamid, salut les Martiens.
Merci d'être là ce matin pour parler et de faire le bilan de cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, au démarrage, j'ai cité De Sabre hein, qui parlait de canne du travail plutôt qu'une canne des surprises. Si on devait faire un bilan, toi, tu penses quoi de cette Coupe d'Afrique des Nations ?
Je suis mitigé par rapport à ce qu'il vient de dire, c'est un peu les deux quand même. Hein. Il y a quand même beaucoup d'équipes qui sont arrivées avec plein d'ambition et qui se sont cassées la gueule en route. Et à côté de ça, il y a des nations qu'on n'avait pas vu venir, qui ont bien travaillé. C'est le cas de la République démocratique du Congo. C'est une très belle édition. C'est une édition vraiment plaisante parce que on aime les tournois avec des rebondissements. On aime quand il y a un scénario improbable, quand ce n'est pas écrit quoi. La plupart du temps, les éditions d'avant, on pouvait déceler. Allez, les quatre demi-finalistes bien à l'avance. Là, c'était vraiment pas le cas quoi. Je veux dire, les cartes, elles ont été rebattues journée après journée. Et moi, c'est ce que j'ai aimé dans cette compétition, le fait qu'on sache pas vraiment dans quelle direction on allait. Ça a été une édition festive avec plein de buts aussi. Donc franchement, je crois que les gens se sont pas ennuyés. Il y a eu des déceptions très importantes, notamment chez des anciens champions. Ouais. Je sais pas si tu vois dans quelle direction je veux aller.
Ouais, tout à fait,
mais voilà, c'est l'eau des grandes compétitions et cette Coupe d'Afrique des Nations, je pense que personne, mais vraiment personne ne va l'oublier.
Mais comment tu l'expliques, la sortie justement des grands favoris? Je pense évidemment au Sénégal, je pense au Lion de l'Atlas. Est-ce que c'est les petits, entre guillemets, qui ont réduit le gap avec les plus grands ou c'est un excès?
Je crois qu'il y a une érosion, mais qui due au fait que effectivement que ça travaille bien avec les fédérations ou les sélections dites moyennes ou présumées plus faibles. C'est-à-dire que aujourd'hui tu peux être une équipe nationale je vais prendre un exemple tout simple hein, la Mauritanie que je connais un petit peu. Bien la Mauritanie ça travaille depuis pas mal d'années, depuis une dizaine d'années ça travaille énormément un petit peu en silence, et puis les sélectionneurs qui sont succédés, ils ont réussi à aller convaincre pas mal de gars, des binationaux, etc., etc. Ça travaillait bien localement, puis ça travaillait bien autour de la sélection qui avait des moyens, et puis ça a fini par se confirmer. Des participations au CHAN, des participations à la Coupe d'Afrique des Nations, et puis jusqu'à arriver à franchir le premier tour en éliminant, ce qui n'est pas rien, l'Algérie au passage.
Ouais.
Donc ouais, ça bosse énormément. Les moyens sont les mêmes que les autres. Ils ont moins de soucis liés, par exemple, à l'organisation, aux primes, à ce genre de choses. Il y a moins. C'est des équipes qui sont peut-être plus homogènes au niveau de l'état d'esprit. Il y a peut-être moins de conflits en interne aussi. Après, il y a de l'érosion aussi. Je pense que l'équipe du Sénégal qui était championne sortante, c'est une très grosse sélection. Mais voilà, quoi. Il faut pas dormir sur ses lauriers. Il faut se dire qu'à un moment donné, le danger, il est là à tout moment parce que toutes les équipes veulent te faire tomber. Toutes les équipes veulent te faire trébucher. Ça a été le cas de la Côte d'Ivoire. On s'était dit, ils vont se ramasser, les Ivoiriens, ils sont repêchés. Pas du tout, ils ont réussi à puiser dans la dernière énergie pour réaliser un truc de fou. Donc ouais, les histoires de statut, tu vois, ça ne tient plus du tout aujourd'hui. Ça ne tient plus du tout. Tu peux être champion, vice-champion, si tu joues pas bien, si tu respectes pas cette compétition, à un moment donné, tu vas te prendre les pieds dans le tapis, puis rentrer à la maison plus tôt que prévu.
Ouais, tout à fait. Beaucoup pensent que c'est une des plus belles cannes de l'histoire. Je parle du niveau de jeu, tu en penses quoi, toi?
Franchement, ouais. Moi, je me suis régalé. Dans le commentaire, là où j'étais d'abord, des matchs, et puis aussi tous les autres matchs, et Dieu sait que j'en ai vu un paquet. Oui, c'était une compétition de ce point de vue-là. Il n'y a pas eu beaucoup de matchs où on s'est embêté, très honnêtement. Il y a eu très peu de 0-0, donc on peut pas se plaindre de cela. Il y a eu beaucoup de buts, il y a eu du spectacle, il y a eu des révélations, il y a eu des rebondissements, il y a eu pas mal d'anciens vainqueurs qui sont passés à la trappe. Et puis en dehors de ça, voilà, c'est vrai que c'est une compétition qui a totalement rebattu les cartes et certainement reboosté des pays qui peut-être se disaient ça va être compliqué pour nous d'aller chercher quelque chose. Pas du tout. Les jeunes joueurs, à un moment donné, je pense par exemple à la RDC, ils se sont dit non, c'est peut-être à nous d'aller chercher quelque chose, de porter quelque chose, hein, l'espoir du peuple de faire quelque chose. L'Afrique du Sud, on s'était dit, ouais, il y a les Sundowns, gros club, etc., très très connu.
Ouais.
Mais est-ce qu'une équipe nationale qui repose sur les Sundowns peut faire quelque chose? Eh ben, on en a eu l'illustration. Aujourd'hui, ils sont en capacité d'aller chercher une médaille, de monter sur le podium avec la troisième place.
Ouais.
Et ces pays dont je parle, bah, aujourd'hui, se disent, mais la Coupe du Monde en 2026, ben, on peut aller chercher un ticket parce que c'est ça maintenant l'objectif.
Ouais.
Une fois que t'as montré que t'avais la capacité à faire quelque chose à la CAN, ben, il faut confirmer et ça veut dire se qualifier pour la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord. Je leur souhaite vraiment. Je pense que vraiment c'est là-dessus qu'il faut maintenant continuer de travailler. Il faut pas qu'il y ait une rupture en ce qu'ils ont fait là pendant un mois en Côte d'Ivoire et puis ce qu'ils vont être amenés à faire ailleurs. Pour aller chercher un ticket. On sait que le contingent des pays africains a augmenté, mais c'est à eux d'en profiter.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Avant de faire réagir sur la finale de demain, les joueurs qui t'ont le plus plu, voire les déceptions de cette CAN, pour toi, c'était qui?
Bon, les déceptions, je vais pas commencer à les énumérer car elles sont nombreuses et notamment parmi les éliminés. Moi, j'aurais tellement aimé que les Lions de l'Atlas soient dans le dernier carré, voilà, parce que je les suis depuis tellement longtemps. Donc c'est, pour moi, c'est une déception importante et je pense que c'est le cas de tous les Marocains. Après des révélations, je vais t'en donner quelques-unes comme ça au vol. Le gardien du Nigeria, Noah Bally,
ouais.
Vraiment que je ne connaissais pas, qui évolue pas dans un grand club en Afrique du Sud. Révélation pour moi, Noah Bally. Une des révélations du côté Côte d'Ivoire, c'est le petit Adingra qui a égalisé contre le Mali en quart de finale, par exemple, qui joue en Angleterre. Qui je dirais chez les joueurs de la République démocratique du Congo, j'ai envie de te dire un garçon qu'on connaît pourtant, mais qui a été pour moi peut-être le meilleur latéral gauche, c'est Arthur Masuaku.
Ouais.
Voilà qu'on avait vu notamment briller contre le Maroc. Et puis pour l'Afrique du Sud, il y en a tellement. Mais il y a Teboho Mokoena que j'ai l'habitude de suivre avec les Sundowns. Mais là, franchement, dans ce tournoi, je l'ai pas reconnu. C'est un autre type. Il est arrivé, il a enlevé le costume, l'habit de chauve, comme on dit, et il a mis l'habit de vedette et de leader de l'Afrique du Sud. Il était très bon. Il y a eu d'autres garçons qui ont brillé, que je connaissais moins, Lassine Sinayoko, le Malien, par exemple. Que te dire d'autre? Franchement, voilà, c'est globalement, voilà, il y a eu plein de gars,
beaucoup de révélations. Peu...
Ouais, franchement, et ça c'est bien. Voilà, c'est bien d'avoir des nouveaux noms. Après, il y a ceux qu'on attendait, ils sont là, hein, même s'ils n'ont pas tout cassé. Victor Osimhen, il a peut-être pas marqué plein de buts, mais qu'est-ce qu'il a été important dans le parcours du Nigeria, par exemple. Voilà. Et la révélation qui n'est pas sur le terrain, mais qui est sur le banc, pour moi, c'est mon ami Emers Faye, qui est passé du statut d'encadrant adjoint à celui de sélectionneur national. Et en l'espace de quelques matchs, il s'est vraiment mis. Il me fait penser là dans ce début d'exercice pour lui. Il me fait penser à Walid Regragui quand il a pris l'équipe nationale du Maroc. Tout de suite, il a redonné quelque chose, une vraie impulsion, une vraie dynamique. Donc c'est un peu un hommage que j'ai envie de rendre à Emers et à son adjoint Guy Demel. Mmh. Voilà, ils sont partis sur quelque chose. Après, il faut pas se reposer sur les lauriers parce que dans le foot, tu sais bien, hein, ça va super vite dans 2 mois, tu peux te casser la figure parce que bah tu dis ça y est, j'ai un statut, je suis champion ou vice-champion.
Ouais,
donc méfiance.
C'est vrai. Justement à propos des éléphants, demain la finale, c'est quoi ton pronostic?
Victoire des éléphants, bien sûr.
Le miracle continue.
Mais bon, je suis pas objectif, tu le sais bien.
Bien sûr.
C'est la revanche d'un match du premier tour où le Nigeria s'était imposé sur un péno, 1-0. C'est un match au cours duquel le Nigeria n'avait pas tiré en dehors du penalty. Ils n'avaient pas tiré une seule fois au but. C'est-à-dire que le gardien Fofana, il n'avait rien eu à faire à part ce penalty. C'est un match où le Nigeria avait essentiellement défendu, bloqué, n'avait pas montré grand-chose. C'est après qu'on a vu le Nigeria vraiment développer son jeu. Donc, entre-temps, ben voilà, ils ont fait un super parcours avec beaucoup de solidité, avec un fort mental. La Côte d'Ivoire, elle, s'est refait aussi au à mesure qu'elle avançait après la phase de groupe. C'est plus la même équipe de Côte d'Ivoire qu'au premier tour, ouais. Mais c'est plus exactement la même équipe du Nigeria non plus. Ça va être extrêmement, je pense, que ça va être vraiment serré cette fois-ci. Et Merce Faye va pas répéter, je dirais, les erreurs commises, concédées lors du match de la deuxième journée, quoi. Mmh. En plus, lui, il l'a dit, hein, déjà tout récemment. Il a dit, moi, le Nigeria, je les connais. Il se trouve que je les ai joués dans les mêmes circonstances quand j'étais U17 avec l'équipe de France. J'avais perdu en phase de groupe avant de les battre en finale de la Coupe du Monde de cette catégorie-là, 3-0. Donc, pour lui, il y voit un bon présage. Bon, alors après, c'était en 2001, hein, c'était il y a bien, bien longtemps. Mmh. Mais ouais, je vois bien cette équipe sur cette nouvelle dynamique qui récupère des joueurs en plus suspendus. Je vois bien la Côte d'Ivoire devant son public tout simplement s'imposer. C'est écrit. Tu te dis, c'est écrit.
C'est vrai.
Tel que le scénario est en train de se passer. Parce que il passe contre le Sénégal au tir au but. Ensuite, il passe à la fin de la prolongue contre le Mali. Ensuite, il passe dans le temps normal contre la RDC en ayant maîtrisé. Tu te dis, cette fois-ci, c'est leur match, c'est leur Graal, c'est la quête du Graal. C'est il y a rien d'autre qui puisse exister. Ouais. La finale, faut la gagner. Tu t'en fous si tu joues mal. Hein. Ce qui compte, c'est il y a pas une note comme au patinage artistique. Voilà, t'as pas une note artistique de est-ce que tu as bien joué, tu as mal joué. Non. Ouais. Ce qui compte, c'est à la fin, c'est d'aller chercher le trophée. Ce serait le troisième pour la Côte d'Ivoire. Le dernier, c'était en 2015. Le Nigeria, eux, le dernier, c'était en 2013 en Afrique du Sud. Bon, franchement, ils sont très solides, mais je les ai trouvés vraiment, vraiment, vraiment moins inspirés en demi-finale contre l'Afrique du Sud. Je pense que Merce Faye va aller chercher des idées dans ce qu'il a vu aussi chez les Sud-Africains, parce que honnêtement, ils ont su contraindre le Nigeria, notamment en première période, ils ont su les bloquer. C'est pas une équipe imbattable du tout. C'est une équipe qui est solide, qui prend pas de but, le Nigeria, mais. Moi, je crois que les éléphants, demain soir, à EBMP, devant leur public, ils ont tout pour eux, ils ont tout pour terminer, en fait, ce qu'ils ont commencé contre la Guinée-Bissau.
Ouais, tout à fait. Allez, les éléphants, je suis comme toi, allez, la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, en tout cas, Franck Simon, et je te dis à très bientôt sur Radio Mars. En attendant la finale demain soir, il y a la petite finale cet après-midi. Justement, on s'arrête avec Moubarayat Lakan.
برنامج مباريات الكان مع كوتي سبور. هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور، منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. نيفو تلعب، موقع جديد وتطبيق جديد.
MDGS نربحوا الرياضة.
ملعب فيليكس وفويت بواني غيحتضن مساء اليوم السبت مباراة تحديد المركز الثالث في منافسات كأس إفريقيا للأمم كوت ديفوار 2023، واللي غادي يجمع منتخب جنوب إفريقيا اللي فشل في الوصول إلى المباراة النهائية بعد الهزيمة أمام منتخب نيجيريا بضربات الترجيح. بمنتخب الكونغو الديمقراطي اللي نهز في مباراة نصف النهائي أمام منتخب كوت ديفوار بثنائية نظيفة. هذه المباراة غتنطلق في الساعة 9 مساء.
برنامج مباريات الكان مع كوت سبور. هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور، منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. نيفو تلعب، موقع جديد وتطبيق جديد.
MDGS نربحوا الرياضة.
Il est 9h18, toujours au cœur de Mars Africa en ce samedi 10 février. Dans quelques secondes, direction, on restera d'ailleurs en Côte d'Ivoire avec notre amie Elisabeth Gouli qui nous parlera de l'ambiance avant cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais d'abord, un coup de marteau sur Radio Mars.
La Côte d'Ivoire, inspirante d'hospitalité, reçoit l'Afrique. Jour de fête.
C'est quoi?
Et vous savez?
Joe, hein, nous on est là.
To ala balad el baya
Ça s'appelle coup de marteau. Allez les éléphants, direction la Côte d'Ivoire. Et avec nous ce matin, c'est un plaisir, Elisabeth Goli, notre amie consoeur. Bonjour Elisabeth.
Oui, bonjour. Bonjour, chers amis auditeurs de la Radio Basse.
J'imagine que c'est la fête en ce moment en Côte d'Ivoire, à la veille de cette finale de Coupe d'Afrique des Nations, le miracle qui s'est poursuivi tout au long de cette CAN. On espère vraiment pour vous, du fond du cœur, Elisabeth, que le rêve va bien se terminer demain. Avant de parler de la finale de demain, d'abord, parle-nous un petit peu de l'ambiance. Comment ça se passe à la veille de cette Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire?
À la veille de cette Coupe d'Afrique des Nations, tout le monde est vraiment mobilisé. C'est vraiment une effervescence dans tout le pays parce qu'il n'y a pas seulement qu'Abidjan. C'est toute la Côte d'Ivoire, qu'on soit dans les campements, en tout cas dans tous les recoins, tout le monde est mobilisé. Et d'ailleurs, il y a plusieurs slogans qui sont nés à la faveur de cette Coupe d'Afrique des Nations, à la faveur des différentes victoires des éléphants. Par exemple, là, par rapport à demain, on nous demande, en fait, selon les slogans et autres, c'est l'humilité, il faut être humble, on ne sait pas jouer, on dit qu'on ne vaut rien, mais on gagne, et ainsi de suite. C'est des slogans vraiment qui sont devenus sur les réseaux sociaux. Et là, c'est vraiment la mobilisation totale partout, dans tous les fan zones, dans les maisons, dans les quartiers. En tout cas, personne ne veut rester en marge de cette phase finale, de cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations à laquelle participe la Côte d'Ivoire, que disputera la Côte d'Ivoire face aux Super Eagles du Nigeria. Vraiment, c'est la mobilisation totale dans tous les foyers, au niveau de l'État, au sommet de l'État, à tous les niveaux du pays. Tout le monde est mobilisé. Et là, les maillots des supporters s'arrachent comme des petits pains, quel que soit le prix auquel il est fixé. Chacun préfère l'avoir. L'épagne, actuellement, difficile de trouver l'épagne confectionnée à la faveur de cette Coupe d'Afrique des Nations.
Alors, évidemment, tout le monde est heureux en Côte d'Ivoire. Ça fait plaisir. La CAN a déjà réussi sur le plan organisation. J'imagine qu'avec le fait que les éléphants soient en finale, là, le bonheur est total.
Oui, le bonheur, il est total. Et même les Ivoiriens vont même jusqu'à demander le férié le lundi au cas où les éléphants remporteraient le trophée. Ouais.
Qu'est-ce qui se dit par rapport à l'organisation de manière globale? On est plutôt content du travail fait?
Oui, allô?
Oui, Elisabeth.
Oui. Au niveau de l'organisation, les gens sont contents parce que cette Coupe d'Afrique des Nations a permis, il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'investissements en matière infrastructurelle, beaucoup de routes qui ont été construites, beaucoup de choses qui ont été faites. Par exemple, il y a les maisons de la CAN, les nombreux ponts qui ont été achevés avant même leur terme, certains qui sont encore en travaux, des quartiers qui ont été restaurés, qui ont été démoli, vraiment pour donner une belle image, une belle vue à la Côte d'Ivoire. Donc les gens sont contents de voir que la CAN a permis d'avoir certaines infrastructures, même si au départ les gens étaient mécontents. Mais avec la victoire des éléphants, les gens se disent que c'est bon. S'il n'y avait pas eu de victoire, les gens auraient dit tous ces investissements ont été faits pour rien. Mais tant que ça marche, tant qu'on avance, ben tout le monde est content de tout ce qui a été réalisé ici en Côte d'Ivoire.
Elisabeth, je vais te demander de rester avec nous une petite minute, le temps de la pub, et on revient juste après pour parler de la grande finale de la Coupe d'Afrique des Nations demain, et j'aimerais aussi savoir ce qui se dit sur Emers Faye, l'entraîneur.
يوميات الأندية، يوميات أخبار الأندية الوطنية مع شبكة مراسلي راديو مارس. مستجدات الأندية في كل الأقسام، الحصص التدريبية ومعطيات قبل وبعد كل جولة من جولات الموسم. يوميات الأندية من 4 ل 5:30 من 2 للجمعة مع سارة مجاهد وشبكة مراسلينا. يوميا داكشي اللي تبغى تعرف على فريقك.
العلماء مارس من 2 حتى الجمعة من 10:30 حتى 12 مباشرة على راديو مارس.
هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور، منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. نيفو كلاب، موقع جديد وتطبيق جديد.
MDGS نربحوا الرياضة.
مباريات البطولة الاحترافية القسم الوطني الأول مباشرة على راديو مارس. حسين أكادير واجه الشباب الرياضي السوالم نهار السبت مع 4 ديال العشية بملعب كبير بأكادير.
هاد الماتش مباشرة على راديو مارس.
كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 على راديو مارس.
Merci de nous écouter sur Radio Mars. Il est 9h27 et on est en direct avec Elisabeth Goli, notre amie consoeur journaliste, en direct depuis la Côte d'Ivoire. Alors, avant de parler, Elisabeth, de la finale de demain, parlons un petit peu de Emers Faye, l'entraîneur, j'imagine, adulé par les supporters ivoiriens. Qu'est-ce qui se dit sur le coach?
Ben, tout le monde est content de la prestation quand on fait la comparaison avec la prestation du sélectionneur Jean-Louis Gasset. Tout le monde est satisfait parce que en si peu de temps, il a réussi à ne faire que de réaliser que des victoires. Et donc aujourd'hui, tout le monde est vraiment content et les gens aujourd'hui plaident pour qu'il soit maintenu en tant qu'entraîneur, en tant que sélectionneur de cette équipe de la Côte d'Ivoire, parce que les gens même ils vont jusqu'à même dire que pourquoi recourir encore à un Européen alors que nous avons la matière, nous avons la compétence dans notre pays. Et aujourd'hui, tout le monde est satisfait de ce travail. Tout le monde se dit, c'est lui qui a relevé l'honneur des éléphants, c'est lui qui a relevé l'honneur de la Côte d'Ivoire. Alors, il est vraiment adulé, il est apprécié. Et chaque geste qu'il pose est suivi, est commenté dans toi de la bonne manière et apprécié également de la meilleure des façons.
Avec un record légendaire pour Emers Faye, puisque le technicien de 40 ans est devenu le premier entraîneur à atteindre la finale de la Coupe d'Afrique des Nations après avoir pris son équipe au cours de la
compétition. Effectivement. Et aussi, il a été l'un des joueurs de la sélection nationale de la génération dorée, même si en son temps, il n'a pu obtenir de trophée. Mais aujourd'hui, ce qu'il est en train de réaliser est grand parce que personne ne s'y attendait. Tout le monde voyait la Côte d'Ivoire out après les 4-0 infligés par
la Guinée
équatoriale. Tout le monde voyait la Côte d'Ivoire dehors. Bon, il a fallu cette règle du jeu qui permettait de recruter, de repêcher le meilleur troisième. Et donc, la Côte d'Ivoire était le dernier meilleur troisième, d'ailleurs, suite à la victoire des Lions de l'Atlas. Donc, au passage, la Côte d'Ivoire vous dit merci. Et je pense qu'on vous dédiera le trophée si nous le remportons demain.
Ce sera avec grand plaisir. D'ailleurs, on est beaucoup sortis aussi avec nos amis ivoiriens après la qualification de la Côte d'Ivoire en finale de la Coupe d'Afrique. En tout cas, pour Emers Faye, une victoire demain soir lui permettrait d'entrer définitivement dans la légende du football africain. Il est top. On est avec vous de tout cœur, Elisabeth. Qu'est-ce qui se dit sur la finale face au Nigeria, une équipe que vous connaissez très bien puisque vous les avez eus en phase de groupe. On est plutôt, j'imagine, hyper optimiste.
Oui, on est optimiste, mais toutefois, quand même, avec beaucoup de prudence, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Ivoiriens ont tendance à dire, depuis que la Côte d'Ivoire avance, ont tendance à dire humilité, humilité. C'est vrai qu'on a rencontré déjà un match de poule le Nigeria, mais il faut retenir qu'on est sorti perdant de cette rencontre face au Nigeria. Donc, en quelque sorte, cette finale est le remake des phases de poule, et les Ivoiriens sont très prudents, tout en étant quand même convaincus. Ils sont vraiment convaincus que la Côte d'Ivoire va remporter le trophée. Et d'ailleurs, ils aiment si bien le dire. Dieu, il y a Dieu dedans. Donc, il y a Dieu. Et dans la mesure où et ils disent qu'ils n'ont plus peur de quelque chose parce qu'ils disent quoi ? Ils étaient morts, ils ont été ressuscités, ouais. Ils sont aujourd'hui comme des revenants. Donc pourquoi avoir peur encore du vivant ? C'est plutôt le vivant qui a peur du revenant. Donc ils sont vraiment prêts à tout faire pour remporter ce trophée, pour vraiment faire honneur au peuple ivoirien et aussi faire honneur à son président de la République qui n'a ménagé aucun effort pour faire toutes ces pour réaliser tous ces investissements. Et vraiment le défi, les joueurs sont également prêts à relever le défi, et surtout c'est ce cinglant 4-0 qui a fouetté leur honneur, et pour la Côte d'Ivoire ce serait vraiment une belle chose. Et ils se disent aujourd'hui, on connaît déjà le jeu du Nigeria qui nous a battu, alors pourquoi ne pas se donner les moyens pour les contrer et remporter ce trophée.
Ouais, ça serait la CAN de la joie et du bonheur. C'est tout le mal qu'on vous souhaite vraiment du fond du cœur à Elisabeth Gouli et à tous nos amis ivoiriens. Merci beaucoup Elisabeth, courage et bonne chance pour demain, on est avec vous.
Okay. Merci beaucoup.
À très bientôt Elisabeth, à suivre dans quelques minutes. Tiens, on parlera de la RDC, RD Congo, emmenée par un Sébastien de Sabre. Il s'agit de la petite finale, en tout cas probablement sur le podium, on verra. En tout cas après le match face à l'Afrique du Sud, Michel Taubaud viendra nous dire à ce qu'il a pensé de la CAN de la RDC. Mais d'abord, à quoi va Magic System sur Radio Mars. nous suivre sur Radio Mars, il est 9h36. Quel plaisir de vous retrouver pour Mars Africain ce samedi 10 février. Allez, après Elisabeth Goli, depuis la Côte d'Ivoire, on a avec nous ce matin Michel Tobo pour parler du RD Congo, la RDC. Personne n'attendait la RD Congo aussi haut à la CAN 2024. Et pourtant, les Léopards se sont hissés jusqu'au dernier carré, s'inclinant en demi-finale contre le pays hôte, la Côte d'Ivoire. Une performance qui consacre le renouveau du pays le plus peuplé d'Afrique francophone sur la scène footballistique continentale et qui doit beaucoup à son sélectionneur Sébastien De Sabre. Alors évidemment, beaucoup ont parlé de la CAN des surprises. Sébastien De Sabre a parlé de la CAN du travail et il espère décrocher la médaille de bronze face à l'Afrique du Sud pour ensuite parler de la CAN de la fierté. Michel Tobo est parmi nous pour en parler. Bonjour Michel.
Bonjour Hamid, bonjour à Desamad, bonjour à tous les Martiens, ça je viens d'apprendre également. Et voilà, je dirais également comme Elisabeth Goli, depuis Abidjan également, où je me trouve actuellement, voilà.
Alors, il y a plus de la fierté, de la déception, j'aimerais avoir d'abord ton sentiment, parce que personne n'attendait le RD Congo en demi-finale, et pourtant il y a cette déception d'avoir perdu face au pays hôte. Qu'est-ce qui t'anime en ce moment, Michel? Plus de la déception?
Personnellement,
ou de la fierté?
Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que je suis passé avant le match face au Maroc avec Amine à San Pedro. Je lui avais dit clairement que le fait d'arriver en demi-finale pour nous, c'était déjà du bonus. Donc voilà, l'objectif pour les Léopards, c'était d'arriver en quart de finale. Parce qu'on devait logiquement dépasser l'étape que nous avons atteint lors de la dernière participation. Donc c'était en 2019 en Égypte. On s'est fait éliminer par Madagascar en huitième de finale. Donc voilà, l'objectif c'était les quarts de finale. C'est une équipe qui est en reconstruction. On avait déjà très mal commencé les éliminatoires, on le dira jamais assez. On était déjà au bord de l'élimination avec l'arrivée de Sébastien Desabre qui a réussi justement à redonner une autre dynamique à cette équipe. Voilà, en gagnant les quatre matchs qui restaient. Voilà, ce qui a fait que les Léopards sont sortis premiers de leur groupe et se sont qualifiés pour cette Coupe d'Afrique. Personnellement, je n'ai pas de remords. J'ai dit bravo à cette sélection nationale de la République démocratique du Congo qui nous a fait rêver. On est arrivé en demi-finale, peut-être, pourquoi pas, en 2025 au Maroc, on arrivera peut-être en finale avec un peu plus de travail. Là, je rejoins, vous avez dit que Sébastien De Sabre a parlé de la CAN de travail, je le rejoins totalement, voilà, donc les Léopards ont travaillé, lui, Sébastien De Sabre, personnellement, a travaillé pour amener cette sélection nationale à ce niveau, donc l'ensemble du peuple congolais, je pense, est fier de sa sélection nationale, et voilà. On va jouer cette troisième place avec beaucoup d'humilité, parce qu'il n'y a plus rien à perdre de toutes les façons. Sébastien De Sabre l'a déclaré également, donc voilà, il va faire tourner son équipe pour donner du temps de jeu aux joueurs qui n'ont pas eu le temps de jeu nécessaire dans cette compétition, voilà, pour participer à cette fête, pour que psychologiquement, pour les prochaines séances, tout le monde soit au meilleur de sa forme, et voilà, parce que l'objectif, c'est la Coupe du Monde en 2026 et intermédiairement, ça passera par la Coupe d'Afrique au Maroc en 2025. Voilà, Amid.
C'est vrai que c'est incroyable ce qu'a pu faire Sébastien De Sabre, parce qu'il est arrivé en 2022, je parle sous ton contrôle, Michel.
Évidemment, il est arrivé en 2022, il n'a même pas plus d'une année encore à la tête de cette sélection et c'est ce qu'il fait. Voilà, je couvre le sport ici en République démocratique du Congo depuis plus d'une quinzaine d'années maintenant, à part peut-être Florent Ibenge qui avait réussi à imprimer la même marque, mais il n'y a aucun sélectionneur étranger qui est venu faire ce que Sébastien De Sabre a fait. C'est vraiment extraordinaire. Voilà.
C'est vrai. La petite finale, qu'est-ce qu'on dit sur cette petite finale face à l'Afrique du Sud?
C'est un bonus, comme le fait que les Léopards soient arrivés en demi-finale, c'est un bonus. En 98, on était déjà arrivé en demi-finale et on a pris la troisième place. En 2015, on s'est fait éliminer justement par la Côte d'Ivoire également, 3-1, et la Côte d'Ivoire a été championne par après. Voilà, en 2023, on s'est fait éliminer encore par la Côte d'Ivoire, peut-être. Ça sera encore la troisième place, on l'espère. Mais ce qui est sûr, les Léopards vont tout donner. Les réactions contrastent un peu. On a suivi les deux sélectionneurs hier lors de la conférence de presse d'avant-match. Hugo Broos, le sélectionneur belge des Sud-Africains, voilà, il semble un tout petit peu minimiser parce que pour lui, que l'équipe soit troisième ou quatrième, c'est pas son problème. L'objectif pour les Sud-Africains, c'était de prendre la première place. Mais là, voilà, ils sont troisième, ils vont jouer, il va tourner également, il a déclaré également. Donc voilà, on aura un match plaisant, bien que il y aura peut-être pas un enjeu aussi considérable que lors de la demi-finale, mais c'est un match international, il faut le jouer comme il se doit, parce que ça compterait également, il y a une médaille de bronze à aller chercher pour toutes les deux sélections.
Tout à fait. Une dernière question par rapport à l'objectif, tu l'as évoqué tout à l'heure, bien entendu, l'objectif c'est la Coupe du Monde 2026, mais le tirage est assez compliqué, puisqu'il y a une des meilleures équipes d'Afrique. Qu'est-ce qu'on pense en RDC par rapport à cette Coupe du Monde et cet objectif?
On a nos chances, hein, je pense. On a nos chances. On a vu le Sénégal, que ce n'était pas une équipe imbattable. On l'a vu, voilà, lors de cette Coupe d'Afrique. Ça donne un peu d'espoir, c'est vrai. Ça va être compliqué, on le sait. Donc, il faudra encore travailler davantage pour aller essayer de chercher ces... Voilà. Ah, une victoire et un match nul, voilà, c'est tout ce qui peut faire en sorte que les Léopards terminent premier de leur groupe. Les sénateurs ont commencé, on a battu la Mauritanie à domicile, on perd contre le Soudan, mais voilà, la marche est encore longue jusqu'en 2026. Voilà, les deux matchs déterminants. Oui, Hamid.
Il restera 8 matchs après les 2 matchs joués effectivement face à.
Oui, voilà, il restera 8 matchs. Voilà, il faudra gérer avec beaucoup de munitions, avec beaucoup de prudence, justement pour tenter voilà d'aller chercher la première place. Ça va être compliqué, on le sait, bien évidemment. Tout le monde donne le Sénégal favori comme c'était le cas lors de cette Coupe d'Afrique, mais on a vu que le Sénégal n'était pas imbattable et que voilà, les Léopards ont leur chance également. Hein. Il faudra tout simplement négocier les 2 matchs avec beaucoup de modestie et de confiance, justement, hein, pour aller essayer de revenir en Coupe du Monde près de 50 ans après. C'est possible. On peut encore croire, en tout cas pour le moment, au regard de l'effectif que cette sélection nationale possède et que d'autres joueurs, bien évidemment, avec la performance que les Léopards ont fait lors de cette Coupe d'Afrique, voudront peut-être rejoindre cette sélection pour renforcer, pour aller justement à cet objectif de revenir en Coupe du Monde en 2026.
Tout à fait. D'ailleurs, la RDC a fait mieux que le Sénégal lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, puisque la RDC joue la petite finale. Merci beaucoup à Michel Thaubeau et je te dis à très bientôt sur Radio Mars. À suivre dans un instant, on ira en Tunisie, on ira en Mauritanie aussi, mais d'abord Yeke Yeke Mori Kanté sur Radio Mars. fréquenter sur Radio Mars. Il est 9h47. Allez mes amis, c'est parti, direction la Tunisie avec mon ami Ahmed Adala avec nous ce matin pour parler de certainement la déception en Tunisie suite à l'élimination en Coupe d'Afrique des Nations. Une fin de parcours humiliante en phase de poule et une première depuis 2013, alors que l'objectif fixé par la fédération tunisienne était d'atteindre le dernier carré, les demi-finales. Ahmed, j'imagine, je parle sous ton contrôle, beaucoup de déceptions, mais qui peut remplacer Jalal Kadri? Bonjour Ahmed.
Bonjour Hamid, bonjour mon cher ami. Avant d'être un journaliste, un confrère, si tu es un ami, ouais, bonjour à vous.
Merci.
Et à tous les chers auditeurs de Radio Mars. Les auditrices, bien sûr, il faut les saluer aussi. Donc voilà, la déception est grande, comme vous l'avez dit, comme vous l'avez précisé, c'est une humiliation. Depuis 2013, la Tunisie n'a jamais quitté le tournoi dès sa phase de poule. Donc c'est une déception qui est le responsable. Il faut encore prendre beaucoup de temps pour faire les analyses nécessaires, les retombées et tout, pour comprendre ce qui s'est passé. L'autopsie va prendre beaucoup de temps. Par contre, qui est le remplaçant?
Même si, je ne sais pas si tu as vu, j'ai vu passer un article de Jeune Afrique, notamment, qui parlait de Wadi El Jarri, le président. Comment Wadi El Jarri a mis le football tunisien hors jeu? C'est le titre. Je ne sais pas si y a des polémiques par rapport à ça ou pas.
Bon, Wadi El Jarri, c'est le président de la FTF. Il est emprisonné pour le moment. Généralement, nous, vous partagez certainement la vie avec Mayaena. Donc, quand une personne passe par des périodes difficiles, on évite certainement d'en parler. Mais il n'est pas le seul responsable, certainement. S'il est responsable, déjà. Après, comme il a fait des très bonnes choses, certainement, il y a des trucs qu'il a fait qui n'étaient pas dans le profit du football tunisien. Ça, il faut 2 heures pour en parler, mais là, aujourd'hui, le mal est fait. La fédération, d'ailleurs, s'apprête à organiser ces élections qui devraient être organisées le 9 mars. On ne sait toujours pas qui va se présenter aux élections. Est-ce que le vice-président actuel, qui dirige par intérim la fédération, va présenter sa candidature ou pas? C'est très compliqué.
Et on ne connaît pas le nom du prochain sélectionneur, d'ailleurs. C'est problématique par rapport aux dates qui arrivent au mois de mars.
Exactement. Et est-ce qu'on pourrait nommer un sélectionneur d'ici le 9 ou pas? C'est une autre question. On participe à un tournoi reconnu par la FIFA, un tournoi amical, Wins United Cup aux Emirates, avec l'Égypte, la Nouvelle-Zélande et la Croatie. On va affronter la Croatie au premier match. Donc, tout ça, il y a deux entraîneurs qui vont assurer l'intérim, Anis Boussaidi et Montassar Louhichi. Par contre, qui sera le sélectionneur? C'est une question à $1 million, parce que les candidatures sont ouvertes. Il y a ceux qui ont déjà envoyé leur candidature, Hubert Villoud, par exemple, qui d'autres, j'ai oublié le nom. Il y a une dizaine de personnes qui sont déposées leur CV, mais
il n'y a pas de nom marocain. Rien que tu m'avais confirmé ça déjà la semaine dernière.
Oui, il y a pas. Hamout a d'ailleurs, je pense qu'on peut plus l'attraper. Hein. On peut plus l'avoir. Son quota va augmenter. Barkallah Ali. D'ailleurs, on lui souhaite bonne chance à lui et à tous les Marocains. D'ailleurs, pour l'anecdote et pour l'histoire, ça se passe pas comme ça. Ça doit pas passer comme ça. Avec Hamout, il y a un préparateur physique tunisien. C'est le fils de Belhassan Malouche, l'instructeur FIFA, qui est préparateur physique de toutes les sélections de la Jordanie depuis 2018. Et c'est un Tunisien, c'est une fierté pour nous, comme c'est une fierté pour vous par rapport à Hassan Hamouda. Donc je reviens au sujet du sélectionneur. C'est très difficile de le savoir maintenant, difficile de le connaître. Il y a un budget, mais il y a beaucoup de noms qui ont été avancés, à l'instar de Hugo Broz, par exemple, l'actuel entraîneur de l'Afrique du Sud qui va peut-être quitter l'Afrique du Sud à la fin de la CAN après le match de classement, parce qu'il ne peut plus, d'après ses déclarations à RTBF, il ne peut plus rester en Afrique du Sud. C'est très loin, il est très loin de sa famille. La fin pour lui s'approche, comme il l'avait dit, je cite, donc pour lui, peut-être un pays en Afrique du Nord, ça sera très proche, à 2 heures de la Belgique. Peut-être que ça va l'aider à rester pas très loin de sa famille. Après, comme vous le dites, c'est une humiliation, c'est une page qui ne peut pas être tournée, qui ne va pas être tournée facilement. Donc voilà, il y a tous les chantiers qui sont ouverts, la présidence de la fédération et le sélectionneur.
Ouais, alors certains aussi, Ahmed parle d'une génération décevante. Tu penses quoi, justement, toi, de cette génération qui porte le maillot de l'équipe de Tunisie? Est-ce qu'on en veut aux joueurs?
Oui, oui, je connais très très bien les joueurs. C'est pas une génération décevante, Hamid. Je veux pas tomber dans la comparaison, mais par exemple, le Maroc avec toutes ses stars, avec tous ses meilleurs joueurs de la planète, quoi. Ils ont quitté le tournoi en 2019 après un match décevant face au Bénin. En 2021, après ce fameux match contre l'Égypte, si je ne me trompe pas.
Oui, tout
à fait. Et voilà. Et cette fois, il quitte le tournoi dès le huitième de finale après une phase de poule magistrale. Pour moi, c'était un très beau football. Et surtout, après une demi-finale à la Coupe du Monde, il y a toujours ce problème. Et je l'avais dit, je l'aurais dit encore une fois, depuis mon arrivée à Abidjan, dès mon premier jour et dès mon premier passage, d'ailleurs, sur antenne, sur nos ondes à Radio Mosaïque FM, je l'avais précisé, les sélections nord-africaines vont beaucoup, beaucoup, beaucoup souffrir de l'humidité et de la chaleur. Les conditions, elles n'étaient pas waouh. On a joué à des heures vraiment pas très adéquates. On joue à 14 heures sous une chaleur de 36 degrés avec une humidité de 85%. Honnêtement, même si on ne joue pas, on ne peut pas respirer. Ouais. Donc c'était très difficile pour la sélection. Et la preuve, regardez qui avait atteint le carré d'as. Ce sont des pays de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique de l'Ouest.
Ouais. Tout à fait. Évidemment, une dernière question, c'est Ahmed, le prochain objectif de la Tunisie, c'est une qualification de la Coupe du Monde 2026 et bien entendu, faire un bon résultat à la CAN 2025 chez nous au Maroc, même si les conditions ne sont pas forcément réunies pour l'instant, mais ça reste quand même l'objectif de la Tunisie, quoi qu'on dise, non ?
Exactement, mais avant ça, il faut se qualifier à la CAN, hein. parce que là, on a beaucoup de doutes. Mais bon, c'est une équipe qui doit être reconstruite, la reconstruction doit être faite dès maintenant, un projet doit être mis en place. Il n'y a pas que la sélection qui est malade, il y a le football tunisien qui souffre, l'infrastructure, les stades. Aujourd'hui, le championnat a été retardé, le championnat de play-off, parce qu'on a play-off, play-out, le championnat de play-off a été repoussé de 2 ou 3 semaines. On démarre le 5 ou 6 mars, et 6 mars parce qu'on n'a pas de stade qui pourrait accueillir les matchs de l'équipe de la capitale. Je parle de l'Espérance sportive de Tunis et du club africain. Donc, le club, ils ont décidé, avec la fédération plutôt, a décidé de reporter la reprise. Il y a tout un chantier. Il y a des joueurs qui doivent partir dans le respect total par la grande porte. Ouais. On ne va pas les obliger à partir, mais ils doivent absolument leur place et faire cette passation à une nouvelle génération. On a des joueurs qui...
Oui, c'est Ahmed. Alors, on l'entend plus. C'est Ahmed, effectivement, il parlait de certains joueurs qui devaient peut-être céder leur place à une nouvelle génération. Je voulais aussi aborder la question de l'arbitrage, parce que l'arbitrage était sous-représenté, en tout cas l'arbitrage tunisien, très très peu représenté lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, merci, c'est Ahmed Barimena, c'est Ahmed.
Oui,
pardon, on a été coupé, oui. C'est Ahmed. Justement, tu parlais de ces joueurs qui devaient quitter donc, peut-être par la grande porte.
Oui. Ils doivent quitter par la grande porte parce que tout simplement ils doivent laisser leur place. Vous me écoutez ?
Oui, tout à fait. Là, on t'entend 5 sur 5.
Voilà. Voilà. Donc, ils doivent laisser leur place à la nouvelle génération qui, quand on compte déjà dans nos rangs des joueurs qui jouent en Ligue des Champions avec des chiffres exceptionnels, à l'instar de Lies Lachouri ou autres joueurs. Donc, c'est le moment de faire cette petite passation et de rêver gros.
Très bien, merci beaucoup, c'est Ahmed Adala. Et je te souhaite de passer un très bon week-end. À très bientôt sur Radio Mars. À suivre, mes amis, après la pub, la pause musicale, on ira en Mauritanie, je l'espère en tout cas. On pourrait retrouver la Sana Camara, Bakary Sissé sera parmi nous, je l'espère, en direct le Sénégal, pour parler évidemment, là encore, d'une grosse déception pour le Sénégal. Alpha Madi, pour parler du Sili National. Et puis on terminera par David Nzima, en direct le Cameroun, avec notamment la démission refusée visiblement de Samuel Eto'o. On évoquera aussi Rig Barsong, le coach du Cameroun, ce qui poursuivra ou pas. Il nous dira tout pour tout ce qui concerne les Lions Indomptables. Mais d'abord, 9h56. La pub. Après. ما نقدرش نبعد عنها وانا كل حوتها في ماها هالطفلة اللي برتو منها وحبيتوني باش ننساها ما نقدرش نبعد عنها وانا كل حوتها في ماها عاشق ومغرور جدا لها حياتها في القسم الوطني الأول مباشر على راديو مارس. المغرب فاسي يواجه الفتح الرياضي نهار السبت مع السادية العشية بملعب الحسن الثاني بفاس.
هذا الماتش مباشر على راديو مارس. الحقيقة في 90 دقيقة، برنامج كيواصل البحث ديالو على الحقيقة اللي غابت على الرياضة الوطنية بشكل عام. الحقيقة في 90 دقيقة، شنو كاين ما بين الحقيقة والواقع؟ مع هادي العماري، نقاشات مع ضيوف وحتى مع المستمعين. الحقيقة في 90 دقيقة مع الجامعات، مع الأندية، مع المدربين والحكام ومع كاع الفاعلين في الشأن الرياضي. الحقيقة في 90 دقيقة يوميا من 2 للجمعة من 5 للسبعة مباشرة على راديو مارس.
Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, la Fédération Royale Marocaine de Golf et l'Association du Trophée Hassan II de Golf, présidée par Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, organise la 48e édition du Trophée Hassan II et la 27e édition de la Coupe Lel Meriem au Royal Golf Dar es Salaam à Rabat du 19 au 24 février 2024. Venez voir les légendes du golf mondial du PGA Tour Champions et les championnes marocaines et internationales du Ladies European Tour. Bienvenue au Royal Golf Dar es Salaam de Rabat, ville lumière et capitale africaine de la culture. L'entrée est gratuite. Pour plus d'informations, www.hassandegolftrophy.com.
Radio Mars, il est 10h03, vous êtes au cœur de Mars Afrique, ce samedi 10 février 2024. Alors mes amis, après la Côte d'Ivoire, la RD Congo, après la Tunisie, direction le Cameroun. Et c'est un plaisir d'accueillir David Nzimayenge en direct avec le Cameroun pour parler notamment de la démission de Samuel Eto'o, rejetée par la Fédération du Cameroun. Évidemment, les Lions Indomptables éliminés dès les huitièmes de finale suite à leur défaite face aux Nigériens. C'est beaucoup de déception, j'imagine. Parlons d'abord de Samuel Eto'o. Bonjour David.
Bonjour, bonjour Amine, bonjour à tous les auditeurs de Radio Mars.
Alors, il y a beaucoup de déceptions. Résultat des courses, Samuel Eto'o a déposé sa démission qui a été refusée par la Fédération Camerounaise de Football. Qu'est-ce que pense l'opinion publique justement de cette démission refusée de Eto'o?
Écoutez, je vous Samuel Eto'o est un élu et qu'il avait un mandat de 4 ans, à moins qu'il démissionne justement, il ne pourrait pas, l'opinion publique n'a rien à voir sur son mandat. Donc que pense l'opinion publique? Oui, l'opinion pense qu'elle a été manipulée, parce que quand on veut démissionner, selon l'opinion, quand on veut démissionner, on ne demande pas, on dépose sa lettre de démission et on s'en va. Maintenant, on pense, les uns et les autres pensent, analysent en disant que une feinte, comme l'ancien attaquant du FC Barcelone connaissait bien en faire sur le terrain. Ouais. C'était une feinte pour dire, j'ai feinté, j'ai fait semblant de partir, mais je suis pas parti et j'ai perdu le défenseur. Donc, en fait, l'opinion publique a été donc perdue comme lors de ses feintes sur le terrain et le défenseur est perdu et là il peut marquer tranquillement son but.
Donc, mais les gens veulent qu'il reste ou pas? Finalement, les gens aimeraient qu'il poursuive sa mission ou pas du tout? Ils sont déçus.
En réalité, avec les changements qu'il y a eu dans le football camerounais depuis l'arrivée de Samuel Eto'o, normalement il devrait poursuivre sa mission. Normalement. Maintenant, l'opinion attend les résultats des équipes nationales qui ne sont pas malheureusement au rendez-vous depuis un temps. Les équipes nationales du Cameroun ne donnent pas le même rendement qu'avant, mais est-ce que c'est peut-être la faute du management et comment on pense que il a un management qui est à revoir, alors oui, les gens peuvent croire que son départ va changer les choses, mais une équipe nationale, le Maroc lui-même a fait demi-finale de Coupe du Monde, mais c'est depuis 1976 que le Maroc n'a pas gagné une Coupe d'Afrique des Nations. Donc, on peut, si on devait s'appuyer sur les résultats seulement de l'équipe nationale du Maroc, le président Fouzi ne serait pas aux commandes. Et pourtant, on sait bien les changements qu'il a fait pour le football marocain. Les changements, il faut les faire à partir de la base. Et c'est ce que nous qui travaillons dans le foot espérons que Samuel va faire, parce que depuis qu'il est arrivé le 11 décembre 2021, effectivement, il y a quelques changements sur le terrain, sur les championnats de football féminin, les championnats professionnels de Ligue 1 et de Ligue 2. Mais c'est les résultats des équipes nationales qui n'arrivent pas encore. Peut-être parce que les choix des managers sélectionneurs ou des dirigeants techniques des équipes nationales sont mal faits, ou bien parce qu'ils sont mal managés, ou bien parce que les joueurs pensent qu'il y a une omniprésence du président de la fédération. Mais l'opinion, vous savez, l'opinion ne vote pas le président de la fédération camerounaise de football. Il y a une assemblée générale qui vote le président de la fédération. Ils sont 79, je pense, si je ne me trompe, 79 membres de cette assemblée-là. C'est à eux que normalement Samuel Eto'o devrait déposer sa démission, et pas au comité exécutif, au comité qui sont 19. Et puis, il peut s'entendre avec son comité exécutif pour démissionner, mais c'est à l'assemblée générale qu'il faut déposer sa démission. Et puis, la démission, comme je l'ai dit en début, c'était une feinte.
Ouais, tout à fait. Voilà. Alors, en tant que sélectionneur national, Rigobert Song se retrouve forcément en première ligne après cet échec. Est-ce qu'on parle d'un éventuel départ de Rigobert Song? Lui, en guise de défense, le technicien avait mis en avant la jeunesse de son équipe. Quid de l'avenir de Song? Est-ce qu'il reste ou pas?
Là, on va attendre le 28 février pour savoir si Rigobert Song sera reconduit ou pas, parce que son contrat avait été signé le 22 février pour deux ans, je veux dire, et on est à quelques jours seulement. L'erreur à ne pas commettre, c'est de le limoger, parce que nous savons que le Cameroun a déjà, la Fédération camerounaise de football a déjà limogé plusieurs entraîneurs, et les affaires sont en cours pour payer les droits de cette prise de décision unilatérale. Donc il faut attendre tranquillement, sagement, que le 28 février arrive pour savoir si oui ou non son mandat sera reconduit. Mais je pense que là, je peux vous donner ce que pense l'opinion. L'opinion pense que, en réalité, la grande opinion pense que Rigobert Song a tout donné au Cameroun quand il était joueur, et que il donne beaucoup moins quand il est sélectionneur. Donc, en réalité, il y a des victoires comme celle de Blida, il y a des victoires comme celle du 2 décembre 2022 face au Brésil, il y a des victoires comme celle contre la victoire qui nous qualifiait pour le huitième de finale ici, contre le Burundi à Garoua déjà, et contre la Gambie ici. Mais ce sont des victoires assez retentissantes, mais il faudrait que les Lions prennent une autre allure pour continuer à faire peur aussi bien dans l'Afrique que dans le monde. Donc, en réalité, pour l'opinion, ce serait plus à Rigobert Song qui normalement devrait continuer. Il y a plein de Camerounais qui ont le niveau pour continuer cette tâche-là, et on attend le 28 février, ce n'est pas pour longtemps.
Ouais, on attend dans le 28. Les noms qui reviennent, c'est plutôt des noms de coachs camerounais et pas de coachs étrangers.
Bien entendu, parce que on voit ce que Jean-Louis Gasset a fait avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, qui a failli sortir parce que le management des joueurs était mal fait. Une fois que Emers Faye a pris la même équipe, on voit à quoi ça ressemble. Donc, ce sont des expériences qui montrent que on est plutôt en train d'aller vers la nationalisation du banc de touche. On n'a pas envie de rebrousser chemin pour aller chercher le sorcier blanc, comme on les appelle chez nous.
Très bien. Merci en tout cas, merci du fond du cœur à notre ami David Eyengue. À très bientôt dans Mars Africa sur Radio Mars. À suivre après la pub, je l'espère, on ira en Mauritanie parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On ira au Sénégal et pourquoi pas en Guinée-Conakry avec Alpha Madi. Mais d'abord la pub.
كأس إفريقيا للأمم توتال إنرجي 2023 من قلب الكوت ديفوار جنوب إفريقيا الكونغو في دور الترتيب جنوب إفريقيا الكونغو نهار السبت مع 9 ديال الليل بملعب فيليكس بوانيي مباشرة على راديو مارس توتال إنرجي المساند الرسمي لكأس توتال إنرجي للأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023
Merci de nous suivre sur Radio Mars, il est 10h12, le dernier quart d'heure de Mars Africa en ce samedi 10 février. Je l'espère, on ira en Mauritanie parce que c'est une des belles, des très belles histoires de cette Coupe d'Afrique des Nations avec un coach exceptionnel, Amir Abdou, qui prolonge son contrat de sélectionneur de la Mauritanie jusqu'en 2026. Lassana Camara sera parmi nous. On ira aussi, je l'espère, au Sénégal avec Bakary Cissé. On terminera avec Alpha Madi en direct de la Guinée, Conakry, si le réseau marche. Mais d'abord, Yamouré sur Radio Mars.
Olhar de nós criança, da dor na brilhar de inocência, e na noite se esgritalhada, temporal talvez da mainã, na brandura e calmaria, nós amor também descansar, disse luta e resistência, para sobreviver nesta tormenta, na brandura e calmaria. Já morta bem descansada, disse luta e resistência, para sobreviver nesta tormenta.
Zaria Evora et Salif Keita Yamouré sur Radio Mars, il est 10h15. Allez mes amis, parlons de cette équipe, hein, la belle histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, la Mauritanie, et de son coach Amir Abdou, auteur d'une CAN réussie à la tête de la Mauritanie, qui a décroché une première victoire et une première qualification historique à la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Il a été prolongé jusqu'en 2026. Pour en parler avec nous ce matin, Lassana Camara, bonjour.
Lassana. Bonjour.
Merci
bonjour
d'être
à
là.
Tous vos auditeurs.
Merci, merci et bravo encore une fois pour la Mauritanie, parcours exceptionnel lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Évidemment, on s'attendait à ce que la fédération prolonge Amir Abdou, n'est-ce pas, Lassana?
Oui, on s'attendait que la fédération fasse une proposition de prolongation à Amir Abdou. Ça a tardé un peu parce qu'Amir Abdou a été sollicité par quelques fédérations, mais il a compris que pour la stabilité, pour le projet, la Mauritanie offre plus d'assurance. il a eu une augmentation de plus de 50%, jusqu'à, on peut dire 80% d'augmentation, parce qu'il avait un salaire de 20 000 euros, il se trouve avec 34 à 35 000 euros, plus les primes qui ont été revalorisées, beaucoup de trucs qui vont changer.
Alors, on a augmenté le salaire et j'imagine qu'on a augmenté l'ambition, l'objectif de la Mauritanie. C'est quoi pour le futur?
L'objectif de la Mauritanie, c'est de se qualifier pour la CAN 2025 au Maroc. Mmh. C'est de faire bonne figure là-bas au Maroc. Pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, on est dans un groupe très difficile avec la RDC, Togo, Sénégal. Et ça va être compliqué, mais de ne pas être ridicule, si on peut se qualifier, ça serait un espoir important. Mais l'objectif, c'est Maroc 2025, y être de la fête et faire un exploit comme dépasser les quarts de finale, demi-finale, pourquoi pas gagner la CAN.
C'est l'objectif donc principal pour Amir Abdou. Qu'est-ce qui a changé suite à cette Coupe d'Afrique réussie en Côte d'Ivoire dans la tête de nos amis mauritaniens par rapport aux prochaines échéances? Est-ce qu'aujourd'hui on se dit ok, maintenant il ne s'agit plus de se qualifier tout simplement, mais l'idée c'est d'aller chercher peut-être des trophées, non?
Oui, ce qui a changé, c'est qu'on n'a jamais goûté aux délices d'une victoire.
Elles étaient belles, hein, les victoires cette année.
Et là, la victoire est là. Ça ouvre les têtes, ça ouvre les esprits. Mmh. Et maintenant, on dit comme l'appétit vient en mangeant, nous sommes plus on ne vient plus faire le trouble fait. Quand, en venant en Coupe d'Afrique, il faut venir préparer, il faut venir avec des ambitions. L'ambition, c'est gratifier les points. Là, on est en huitième de finale, pourquoi pas demi-finale, pourquoi pas quart de finale, mais là, on ne vient plus pour participer comme on l'a fait en Égypte. Ouais. Et en Côte d'Ivoire. Ouais. Et au Cameroun.
Ouais, tout à fait. Sébastien Dessable lui a parlé non pas de CAN des surprises, mais CAN du travail. Et c'est le cas, clairement, pour la Mauritanie qui travaille depuis quelques années. Je veux dire, ces résultats ne sont pas venus par hasard.
Non, ces résultats ne sont pas venus par hasard. Depuis 2012, ça travaille. Avant, la Mauritanie n'avait pas d'équipe nationale. De brique en brique, on a construit une équipe avec des locaux. On a pu convaincre quelques internationaux qui sont venus. Donc la mayonnaise, elle a pris. Et une fédération sérieuse, une fédération qui travaille, ouais. Qui essaie de faire comme ça, c'est vous. Et là, on est en train de construire. Là, l'autre jour, j'étais en train de discuter avec le président qui m'avait même dit qu'ils avaient invité quelques supporters du Raja et du Wydad dans le championnat mauritanien pour montrer aux supporters mauritaniens, par exemple, comment faire un tifo au stade. Mmh. Donc, il y a tous ces détails-là que nous, on n'avait pas. On n'a pas ce culture de supporters, on n'a pas ce culture de club. Et le seul club de l'Afrique de l'Ouest présent en Ligue des Champions africaine, c'est un club mauritanien qui s'appelle l'FC Noir du Bout. Et le président, il était l'ancien président de ce club-là. Mmh. Donc on essaie de faire en sorte que, comme la Mauritanie est le trait d'union entre l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb, que nous, on soit un pays de football dans ce trait d'union-là, pour que demain après-demain, le meilleur joueur du championnat de la Guinée, le meilleur joueur du championnat du Sénégal, etc., avant de partir au Maroc ou dans un autre pays, transite d'abord par la Mauritanie, joue dans le championnat mauritanien. Ouais. Après, ça peut être le championnat mauritanien peut être une sorte de succursale pour le championnat marocain, par exemple.
Un tremplin, effectivement. En tout cas, vous nous avez régalé, la Sada Camara, avec l'équipe nationale, la Mauritanie. C'était beau à voir, beau à suivre, historique d'ailleurs. Et comme tu l'as assez bien dit, hein, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est un vrai travail de fond. Merci beaucoup à la Sada Camara. Et je te dis à très bientôt en direct sur Radio Mars dans Mars Africa. Il nous reste quelques minutes. J'espère qu'on aura le temps d'aller retrouver notre ami Alpha Madi pour parler du Sili national accueilli en héros après leur épopée à Cannes.
Ramène ton équipe, ramène ton pays. On va les Fimbo, 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 Fimbo. Y'a rien de Chitari. Tu marques le but et nous on égalise. Terrain et quadrillé, on le valise. On te fait chuter comme le Titanic. Mauritanie au sommet de l'île.
Allez, 10h22 minutes sur Radio Mars, direction mes amis la Guinée et Conakry pour parler du Sili national accueilli en héros suite à leur parcours en Coupe d'Afrique des Nations. Le sélectionneur Kaba Diawara et ses hommes peuvent savourer d'avoir rempli leur mission, celle de remporter la première victoire guinéenne en phase élimination directe grâce à la victoire 1-0 contre la Guinée équatoriale. Pour en parler avec nous ce matin, Alpha Madi. Bonjour Alpha.
Bonjour à tout le monde.
Je parlais d'accueil en héros pour Kaba Diawara et ses joueurs. On est plutôt très content du parcours, j'imagine, du Sili national.
Ça dépend de qui est content. C'est vrai qu'il y a eu un accueil.
J'ai vu qu'ils avaient été accueillis en héros, accueil triomphal à l'arrivée de l'équipe nationale,
oui.
Non?
Oui, ce qui était vraiment incompréhensible hein, pour l'observateur que je suis, parce que honnêtement, c'est vrai que il y a plus d'équipes maintenant à la Coupe d'Afrique des Nations, mais l'appellation n'a pas changé, ça reste des quarts de finale. On gagne certains matchs à élimination directe, mais quand on voit le contenu, mais quand on voit le contenu de ce qui est proposé par l'équipe et l'effectif que le Sili a, on se dit qu'on aurait pu faire mieux, quoi. De là à faire un accueil chaleureux pour une équipe nationale A qui a disputé juste un quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations, je pense que c'était trop quand même. Mais bon, pour rester sur les faits, ça c'était mon avis, pour rester sur les faits, c'est vrai que l'équipe a été accueillie. Déjà, les populations sont sorties à l'aéroport. Après, à la présidence de la République, il y a eu une réception. Ils ont rétrocédé un peu le drapeau, parce que comme la tradition le veut ici, au départ, en partant, on vous remet le drapeau et au retour, vous le remettez. Donc voilà, il y a eu ça. Et puis, globalement, on a l'impression que à la Fédération guinéenne de football, au ministère des Sports, même à la présidence de la République, les discours qui ont été prononcés après convergent dans le même sens pour dire que l'équipe s'est battue et l'équipe a fait un résultat. Comme vous l'avez dit, premier match à élimination directe remporté. Et apparemment, les gens sont contents.
La suite pour Kaba Diawara et l'objectif, c'est évidemment la CAN 2025. Mais pas qui participer, j'imagine.
Ouais, tout porte à croire que Kaba va être reconduit. Parce que comme je vous l'ai dit, hein, quand on voit de l'accueil, quand on voit des discours des officiels, quand on voit des discours du département des sports, quand on écoute également le discours des plus hautes autorités du pays, on peut se dire que Kaba a toutes les chances de continuer. Maintenant, c'est des prestations qui ont été beaucoup décriées dans la presse, notamment le système de jeu, l'organisation du jeu, la gestion du groupe et tout, la gestion des matchs. Ça a été beaucoup décrié, mais on sait que le nouveau président de la Fédé, c'est quelqu'un de très exigeant côté staff technique. La preuve, c'est son club, hein, l'AS Kaloum, avant de venir à la tête de la Fédération guinéenne de football, qui changeait d'entraîneur tous les 6 mois minimum.
Ouais.
Donc voilà, c'est quelqu'un de très exigeant et on nous a appris avec notre média qu'il a eu des échanges houleux avec l'entraîneur pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, comme j'ai dit, ça c'est ce qui se fait en coulisses, mais dans ce que l'on voit et ce qui se présente jusque-là, c'est comme si Kaba Diawara devrait continuer l'aventure avec le Sili National, même si de l'autre côté, il a été sollicité selon Six Media, qui est un média local, il a été sollicité par la Guinée-Bissau, mais Kaba n'a pas encore donné, il n'a pas réagi par rapport à cette sollicitation, il n'a pas dit s'il était intéressé ou pas, mais c'est vrai qu'il a été sollicité par la Guinée-Bissau.
Il devrait rester.
Où le team... Ouais, où le team manager est un ancien international guinéen de Conakry. Ouais. Donc voilà, mais il devrait rester globalement pour ne pas aller loin. Il devrait rester à la tête du Sili.
Tout à fait, Kaba Diawara à la tête du Sili national avec pour objectif la CAN 2025 au Maroc. Merci beaucoup, merci infiniment à Alpha Madi en direct de la Guinée-Conakry. Merci à tous nos différents correspondants, à commencer par Franck Simon, à Elisabeth Gouli, à Michel Tobo, à Ahmed Adala Lassana Kamara et puis à David Zima Eyenge, notre ami camerounais. Il est 10h27, on arrive au bout de ce Mars Africa qu'on retrouvera demain. Et je céderai avec grand plaisir mon micro à Amine Birouk pour la présentation de Mars Africa demain à partir de 9h. Je vous souhaite de passer très très belle journée sur Radio Mars, riche en football avec notamment la petite finale de la Coupe d'Afrique des Nations et puis la finale de la Coupe d'Asie. Bon samedi sur Radio Mars.
We together as one, let's celebrate.